Invitée du grand entretien sur France Inter, Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam, ONG qui lutte contre les inégalités et la pauvreté, ancienne ministre du Logement. Elle se trouve dans les studios de nos amis de France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Pierre Veil.
Samedi, le G7 à Biarritz, vous participerez à un contre-sommet du G7, sommet des alternatives à Hendaye en France, Irún en Espagne. Ce contre-sommet commence aujourd'hui. On y vient dans un instant. Vladimir Poutine, reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron à Brégançon, avant ce sommet du G7 à Biarritz. Que pensez-vous de cette rencontre Poutine-Macron?
Mais d'abord, il faut savoir que si la Russie ne fait plus partie de ce qui était le G8, c'est à cause de ce qui s'est passé en Crimée. Donc on voit bien qu'il y a tout un jeu diplomatique qui consiste à continuer à maintenir la Russie et Vladimir Poutine dans les discussions. Mais je crois que ça participe aussi d'un des éléments sans doute qui est le moins positif de ce G7, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est la dimension de communication autour du président de la République française, alors que les sujets, et notamment celui des inégalités, qui est le thème phare normalement de ce G7, sont pour l'instant beaucoup dans les paroles et peu dans les actes.
Donc pour vous, c'est de la com, ce rendez-vous à Brégançon avec le numéro 1 russe?
Globalement, le risque de ce G7, et celui que nous avons pointé, c'est qu'il y a un grand écart entre le discours et les actes. Donc je pense que la rencontre avec Vladimir Poutine s'inscrit dans cette logique-là, dans une logique de dialogue entre les puissants, et des pays les plus puissants diplomatiquement ou économiquement, puisque les pays du G7, c'est 40% du PIB mondial. La question, c'est pour faire quoi en fait? Parce que se réunir entre puissants pour ne pas peser pour la solidarité, pour l'égalité, pour une meilleure marche du monde et pour le climat, finalement c'est pas seulement vain, c'est un peu déprimant pour tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui attendent de leurs dirigeants de vraies responsabilités.
Cécile Duflo, pourquoi allez-vous participer à ce rassemblement anti-G7, ce contre-sommet du G7, le sommet des alternatives? Les organisateurs attendent environ 12 000 participants.
Alors, Oxfam sera présent à la fois à l'Alter G7, au Contre G7, avec toute la plateforme des organisations nationales, mais aussi la grande mobilisation basque qui a permis l'organisation de ce contre-sommet. Mais nous serons également présents à Biarritz. Parce que au sein d'Oxfam, nous croyons au pouvoir citoyen contre la pauvreté, contre les inégalités. C'est-à-dire que nous pensons que ça n'est pas une fatalité, qu'il y a des décisions politiques qui peuvent être prises, qu'elles doivent être prises par les dirigeants, qui doivent être à la hauteur de leurs responsabilités, mais que les citoyens ont une capacité de mobilisation. Et elle va être, je pense, très importante lors du contre-sommet pour montrer leur volonté d'agir localement, de mettre en œuvre des alternatives qui existent déjà, mais aussi de dire qu'au niveau national et international, il faut que les règles changent et vite.
Mais alors ça veut dire que, selon vous, ce sommet du G7 n'aboutira à rien ?
Bah écoutez, pour l'instant, en tout cas, les réunions préparatoires qui amènent à cette réunion et les politiques menées dans les pays, parce que il faut regarder la réalité des faits, nous conduisent pas au grand optimisme. En matière d'aggravation des inégalités, les pays du G7 sont parmi les champions des inégalités au sein de leur pays même. Il faut savoir, par exemple, que l'espérance de vie aux États-Unis diminue depuis 3 ans. C'est-à-dire que dans un pays aussi riche que les États-Unis, l'espérance de vie baisse, que les dépenses d'éducation dans tous les pays du G7 sont en baisse ces dernières années, en pourcentage du PIB. Donc que ces inégalités s'accroissent au sein des pays, on l'a vu en France aussi, au profit des super riches, des hyper riches, c'est quand même la tendance internationale, mais elle est très marquée dans beaucoup des pays du G7, et que dans le même temps, les inégalités avec les pays du Sud continuent de s'accroître, et qu'on a vu renaître la faim dans le monde et réaugmenter la faim dans le monde, alors qu'on était depuis 15 ans sur une tendance qui était plutôt une tendance à la baisse. Donc les choses ne vont pas dans le bon sens, et il faut réagir et pas seulement dans les mots. Et le risque pour nous, c'est que bien sûr, on se félicite que la question des inégalités soit au cœur du débat, que des organisations comme le FMI ou comme la Banque mondiale sont maintenant conscients que l'aggravation des inégalités est sans doute un des facteurs de déstabilisation de nos sociétés majeures, mais il ne faut plus en rester aux mots. Et quand les actes sont en contradiction avec les mots, on a un problème.
Cécile Duflo, mais avec ce contre-sommet, c'est pas un peu étrange de contester le sommet du G7 avant même d'en connaître les résultats et les décisions?
Vous savez, le sommet du G7, le moment où se réunissent les dirigeants, c'est un moment. il est préparé par des réunions de ministres qui ont déjà eu lieu. Donc on sait aujourd'hui vers quel type d'engagement ou d'absence d'engagement il se dirige. Et puis on sait aussi regarder quels sont les actes de ces dirigeants, chacun dans leur pays, et notamment en France, puisque Emmanuel Macron, en président ce G7, se place comme un champion de la lutte contre les inégalités, mais les mois qui viennent de s'écouler en France, les décisions en matière fiscale notamment, montrent bien que entre le discours et les actes, il y a un fossé. Et ce fossé, il est quand même, il est très grave parce que justement, il fait perdre confiance dans la parole des dirigeants politiques.
Quelles seraient les décisions importantes que vous souhaiteriez voir adoptées lors de ce sommet du G7 pour faire reculer les inégalités ? Décisions concrètes.
Alors, je vais vous donner un exemple, parce que c'est un travail qui est en cours, pas seulement au G7, au G20 aussi, où sont présents beaucoup plus de pays, et c'est beaucoup plus légitime d'ailleurs, mais aussi au sein de l'OCDE, qui est une fiscalité minimum des entreprises au niveau international. On sait qu'un des sujets qui mine, pas seulement nos économies, mais les services publics, et qui mine aussi les pays du Sud, c'est l'évasion fiscale, c'est le fait qu'une grande partie des entreprises calculent leurs bénéfices dans des pays sans taxation ou à taxation très très faible, pas du tout à l'endroit où ils sont produits, et empêchent les services publics et empêche par la privation de ressources fiscales les pays d'avoir des services publics et notamment les services publics essentiels que sont la santé et l'éducation à la hauteur. Et donc pour ça il y a une solution, c'est technique, ça s'appelle la réforme BEPS, c'est-à-dire de dire qu'il y aura une taxation minimum dans tous les pays. Le problème c'est que les décisions qui mûrissent aujourd'hui sont au profit des pays les plus riches, c'est-à-dire que on n'arrive pas à prendre des décisions qui vont permettre à des pays, notamment les pays d'Afrique en particulier, de pouvoir bénéficier des ressources fiscales qui devraient leur bénéficier et qu'ils ne se fassent pas priver, en particulier de leurs ressources naturelles.
Les 7 plus riches du monde sont-ils, Cécile Duflot, les seuls responsables des inégalités sur la planète ?
Non, les 7 ne sont pas les seuls responsables, mais ils sont largement responsables. Pourquoi ils sont largement responsables ? Notamment parce qu'ils ont une grande responsabilité dans la dégradation du climat. Vous savez, les 10% les plus riches du monde émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et au-delà des conséquences sur l'ensemble de la planète, il y a au cœur du dérèglement climatique une double injustice. Une injustice dans le temps et une injustice entre les riches et les pauvres. Une injustice dans le temps puisque c'est ceux qui n'auront pas émis d'émissions de gaz à effet de serre, les générations, les jeunes d'aujourd'hui, les enfants, nos enfants, qui bénéficieront et qui recevront les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique, mais aussi les plus pauvres. Et ça se voit aussi à l'échelle de chacun des pays. En France, cette même inégalité entre la contribution au dérèglement climatique et les conséquences se connaît. Mais un pays comme le Bangladesh, par exemple, voit son produit intérieur brut par habitant baisser d'environ 12% du fait du dérèglement climatique.
Sur ce point du dérèglement climatique, là encore, quelle décision espérez-vous lors de ce sommet du G7, une décision qui serait pour vous importante, efficace ?
Des actes, simplement des actes.
Lesquels ?
On n'espère plus, et je crois que c'est ça qui se passe aussi, il faut qu'on comprenne ça au sein de toutes les ONG qui suivent ces questions depuis des années, depuis 20 ans presque.
Mais quel acte voulez-vous ?
Et bah, simplement de tenir les engagements pris lors de l'accord de Paris. Aucun des pays du G7 ne tient les engagements qu'il a simplement pris. C'est tout le sens de l'affaire du siècle, d'ailleurs. Nous pensons qu'il va y avoir d'autres affaires du siècle dans d'autres pays, avec des coalitions entre les citoyens et les ONG, pour dire tenez parole. Parce que vous avez vous aussi commenté des tas de fois des dirigeants qui se félicitent entre eux de leurs engagements. Parfois, ils sont un peu insuffisants, mais quand ils sont même pas tenus, et c'est le cas de l'accord de Paris, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est simplement de tenir, au minimum, de tenir les engagements pris lors de l'accord de Paris.
Vous venez d'en parler, Cécile Duflot. Où en est votre initiative de l'affaire du siècle, cette action de poursuivre l'État pour son inaction écologique ?
Mais la requête a été déposée juste avant l'été. Nous attendons donc la réponse de l'État sur tous les points que nous avons soulevés, c'est-à-dire justement tous ces éléments qui montrent que l'État français, le gouvernement, ne tient pas les engagements qu'il a pris. Pas les engagements qu'a pris ce gouvernement spécifiquement, mais les engagements de la France en tant que pays, en tant qu'État, pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre et pour prendre des politiques et des décisions qui seront efficaces aujourd'hui et pour les générations qui viennent. Et aujourd'hui, on attend la réponse du gouvernement. On verra ce qui va nous être répondu à nos objections sur la réalité des engagements pris et du fait qu'ils ne sont pas tenus.
Cécile Duflot, ce contre-sommet du G7 cette semaine à Hendaye et Irun, est-ce un sommet politique de toutes les forces de gauche, altermondialistes, antilibérales, face à des dirigeants, pour l'essentiel à droite, mais élus et donc légitimes, qui vont se retrouver samedi à Biarritz ?
Alors, lutter contre les inégalités, contre la pauvreté, c'est politique. Pourquoi c'est politique? Parce que c'est pas une fatalité. En fait, c'est une décision politique. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple l'évolution de la taxation des entreprises des années 80, enfin du début des années 80 à aujourd'hui, on est passé dans les pays du G7, hein, je parle simplement des pays du G7, d'environ 50% à un peu moins de 30%. Ça, c'est le résultat de décisions politiques. C'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Donc, si on veut inverser la tendance et lutter contre les inégalités, la Banque mondiale a montré que c'était un moyen plus sûr que la croissance de permettre d'éradiquer la pauvreté et l'extrême pauvreté, c'est là où c'est intéressant, c'est une décision politique. Donc bien sûr que ces mobilisations citoyennes, bien sûr que l'engagement d'Oxfam est un engagement politique, de dire voilà, il faudrait décider d'autres règles que celles qui sont décidées aujourd'hui. Vous posez la question de la légitimité qui est intéressante, il y a une double question de légitimité qui est posée, celle de 7 pays du monde, des 7 pays les plus riches à décider pour l'ensemble de la planète, même si depuis le G20, depuis d'autres cercles, les choses ont évolué, mais c'est sûr que cette question elle est quand même posée. C'est pour ça que ces pays qui sont aussi les principaux contributeurs de l'aide publique en développement ont une responsabilité essentielle. Aujourd'hui, nous n'atteignons pas dans ces 7 pays les objectifs de 0,7% du budget consacré à l'aide publique au développement et il faut continuer ce combat. Mais ça, il n'y a pas besoin d'une décision au sein du G7. La France peut le faire et peut le faire dès le vote de son prochain budget. Donc on y sera très vigilant. Mais plus largement que ça, il y a une question aussi de légitimité d'une politique qui répond aux enjeux de la planète. En fait, vous parlez de l'élection de ces dirigeants élus, c'est vrai, mais le dérèglement climatique, par exemple, il se préoccupe peu du résultat des élections. Il se poursuit quoi qu'il arrive. Donc c'est pas là, pour le coup, la question de l'obligation en tant qu'humain, en tant que terrien, en tant que responsable de l'avenir de l'humanité sur cette planète, elle se pose à tous les dirigeants, elle se pose singulièrement à ces dirigeants de ces 7 grands pays, oui.
Ce contre-sommet auquel vous participerez, c'est une pratique de la désobéissance civile, selon vous ?
Non, la question là, c'est du contre G7, c'est un moment essentiellement de débat et de mobilisation. Il y a effectivement des organisations qui ont engagé des actions différentes. Par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y aurait les portraits qui ont été décrochés du président de la République dans les municipalités. C'est une action de désobéissance civile. On voit bien qu'elle est aussi extrêmement pacifique. Donc, Oxfam, nous, notre volonté, c'est de faire changer les choses, aux côtés des citoyens, avec les citoyens, de croire au pouvoir citoyen, mais aussi d'interpeller les dirigeants et de dialoguer avec eux, où qu'ils soient, avec les dirigeants et avec les chefs d'entreprise, en disant, vous avez la capacité, la responsabilité d'agir aujourd'hui.
Des questions pour vous, Cécile Duflo, au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Et merci.
Vous êtes à Voiron, dans l'Isère.
Voilà, merci.
Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam, vous écoute.
Deux remarques au sujet de la réunion du G7. Il me semble que c'est quand même si ces réunions ne débouchent pas sur grand-chose, c'est important que les dirigeants puissent se croiser, mettre en valeur leurs propres contradictions. On peut imaginer que le jour où c'est plus possible, où les dirigeants ne se rencontrent plus, la situation sera pire. Et la deuxième remarque, c'est qu'en faisant un contre-sommet à proximité et à la même date, il y a un côté provocation et en tout cas une ouverture vers les pires excès. Et le jour où on aura vu des vitrines voler en éclats, des abribus voler en éclats, ça sera tout à fait contre-productif pour les valeurs qui sont à défendre de la contre-culture et des altermondialistes.
Cécile Duflo vous répond, Pierre.
Alors sur le fait que les dirigeants échangent, je suis d'accord avec Pierre, bien sûr, la question du multilatéralisme est quelque chose d'important et on voit bien qu'il y a quand même une tendance de plus en plus à des discussions bilatérales, qui n'est pas forcément une chose positive. Donc oui, bien sûr que nous, au sein d'Oxfam, on défend ce dialogue international et la prise de décision au niveau international. Mais pas seulement la discussion et les échanges, le passage aux actes. Et en fait, l'enjeu de ce G7, c'est vraiment ça. C'est le fossé qui se crée entre les discours et les actes, en particulier sur la question des inégalités. Pour ce qui est de la nature des mobilisations, Oxfam est une organisation résolument non violente, comme beaucoup d'ailleurs. L'engagement de toute la plateforme et des acteurs du contre G7, c'est de mener des actions pacifiques. Donc là, les choses sont très claires. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas tenir responsable ceux et celles qui se mobilisent de manière pacifique et qui croient à l'engagement citoyen de l'action d'autres personnes. Parce que sinon, à ce moment-là, vous interdisez, d'ailleurs, il y a quand même un peu cette tendance-là, vous interdisez toute mobilisation citoyenne en disant, mais attention, il peut y avoir des dérapages ou des débordements. Nous savons ce à quoi nous nous engageons, il y aura des milliers de personnes qui ont un engagement pacifique, mais aussi résolu. Et sur le fait de le faire en même temps que le G7, quand on se mobilise dans le cadre d'un alter G7 en disant quelles pourraient être d'autres politiques menées que celles qui sont menées par les 7 dirigeants actuels de la planète, bah évidemment que ça se fait pendant le moment pour montrer ce contraste qui existe entre ce qui pourrait être fait et ce qui est fait aujourd'hui.
Et lors de ce contre G7, il y aura des défilés, aussi des tables rondes, des débats, des discussions ?
Oui, c'est des grands moments de débat. Il y en a plusieurs dizaines à plusieurs endroits. Je participerai à un débat vendredi après-midi, mais des représentants d'Oxfam France participeront à plusieurs débats. Il y aura aussi des moments de mobilisation collective, d'échanges, oui, des partages d'expériences aussi, puisque, et le Pays Basque est une terre très riche pour cela, il y a aussi aujourd'hui des alternatives qui montrent que une économie plus humaine, davantage de partage, des monnaies locales, tout un tas de solutions existent qui permettent d'avoir un monde qui lutte efficacement contre les inégalités et contre le dérèglement climatique.
Frédéric est à Pau, il écoute France Inter et souhaite interroger Cécile Duflot. Frédéric, bienvenue, c'est à vous maintenant.
Oui, bonjour à tous. Cécile Duflot, bonjour. Dans la mesure où les politiques s'avèrent à l'évidence incapables de prendre les décisions que l'urgence climatique et des inégalités nécessitent, j'aimerais savoir pourquoi les associations, les ONG qui sont porteuses d'un capital formidable humain et de propositions ne s'engagent pas directement dans les élections. Alors moi je rêve de listes aux prochaines municipales où les partis politiques, y compris ceux de gauche qui sont porteurs de valeurs intéressantes mais qui n'arrivent pas à s'organiser, que ces listes citoyennes valaient les partis politiques.
Cécile Duflot.
Alors, deux choses. D'abord, chacun a sa fonction. Enfin, la vie démocratique élective qui se base sur l'organisation d'élections avec des partis politiques ou avec qui il veut d'ailleurs, c'est une chose. Mais la mobilisation citoyenne, le fait d'agir différemment, c'est le cas d'Oxfam, c'est aussi une façon d'agir politiquement dans la durée, sans l'échéance électorale, sans le fait d'exercer les responsabilités électives, mais dans un dialogue avec les élus. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus organiser de coupures entre ceux et celles qui ont des engagements différents. Parfois, on tire dans le même sens et parfois même des gens qui n'étaient pas sur vos positions. Et en tout cas, c'est le pari d'Oxfam dans notre dialogue avec le gouvernement actuel, même si c'est très difficile de dire, en fait, et en particulier sur la question du dérèglement climatique, tout le monde devrait atterrir et se rendre compte de la réalité. Et cette responsabilité, elle ne nous permet pas d'attendre dans 2 ans, dans 3 ans. Elle exige qu'on agisse aujourd'hui. Ensuite, il faut utiliser toutes les palettes de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'affaire du siècle et de la voie judiciaire. C'est pour ça que nous avons fait le choix, qui était nouveau pour une organisation comme Oxfam et comme les organisations qui ont engagé ce recours avec nous, et tous les citoyens et tous ceux, les youtubeurs, les collectifs qui nous soutiennent, d'utiliser la voie judiciaire pour contraindre l'exécutif à agir.
Stéphane est dans les Hautes-Alpes et il est avec nous maintenant au standard 01 45 24 7000. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Une petite question très simple. Ne serait-il pas temps, vu la proximité de l'effondrement, de parler de radicalité dans le sens de la décroissance, une décroissance radicale qui demanderait vraiment, et le plus rapidement possible, une remise en cause de toute notre économie et ne plus participer à aucun gouvernement qui soit encore dans une logique de croissance et même, alors pire que tout, ce que je pense, une croissance verte. Alors là, c'est vraiment du greenwashing, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il n'est pas temps vraiment d'avoir un discours radical vu la proximité de l'effondrement, voilà.
Réponse de Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam.
Ce qui est certain, c'est que le système actuel tel qu'il fonctionne, le système économique actuel mondial, provoque 2 dérèglements massifs, le dérèglement climatique et une aggravation des inégalités. Donc il attaque les fondements même de l'humanité, puisque c'est pas un problème de planète. Il faut que les gens qui nous écoutent se disent que la planète a vécu sans l'être humain, elle peut vivre sans l'être humain. Le sujet pour nous central, c'est celui de l'humanité. Et celui de l'humanité, c'est celui d'une planète vivable, une planète où on peut grandir, où on peut penser son avenir, mais c'est aussi d'une planète équitable, où cette fracture que créent les inégalités dans toutes les sociétés, entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais au sein même de nos pays, doit être affrontée.
Mais expliquez-nous, décrivez-nous une économie de décroissance. Ce serait quoi ?
Pour nous, une économie plus humaine, c'est une économie où les décisions économiques et politiques sont mises au service du bien-être de l'humanité. C'est aussi simple que ça. C'est de dire, par exemple, que distribuer, comme l'a fait Sanofi, je crois, 95% de son profit aux actionnaires, d'augmenter la richesse et l'accroissement des milliardaires français a été au-dessus de tous les milliardaires du monde dans les 6 premiers mois de 2019 n'est pas une situation tenable, n'est pas une solution durable. C'est aussi de se dire effectivement qu'il faut changer nos modes de production d'énergie, changer nos modes de transport, qu'il faut changer de société. Et changer de société, ça nécessite aussi des décisions qui soient à la fois individuelles et collectives. C'est pour ça que j'ai entendu ce que disait votre auditeur, Frédéric, je crois. La question n'est pas une question de se tenir à part de la marche du monde. C'est d'y prendre part, au contraire. C'est de peser sur les décisions. C'est de dire qu'on peut changer les choses. C'est de refuser, justement, la fatalité de l'effondrement.
Mais demain, on lancerait l'économie de décroissance en France. Ça signifierait quoi? Quel changement concret?
C'est pas l'économie de décroissance, c'est de dire, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit et comment on le produit. C'est et c'est aussi de travailler sur un partage des richesses beaucoup plus équitable. C'est justement de ne pas accroître les inégalités, c'est de ne pas utiliser nos ressources naturelles, qu'elles soient en France ou qu'elles soient dans les pays du Sud en particulier, sans mesure et sans juste rétribution pour les populations des pays du Sud. C'est simplement produire différemment, c'est moins gaspiller tout simplement, c'est se dire que on peut changer de mode de production d'énergie de façon massive. On l'a fait dans le passé, hein. En France, on est passé de 0% de production nucléaire à 75% de nucléaire en quelques années pour l'électricité. On peut changer nos modes de production. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en revanche, le système actuel, le mode actuel, c'est la façon ultra-libéral et extrêmement court-termiste de gaspiller nos richesses n'est tout simplement pas durable. Donc vous posez la question, comment on se transforme? La question c'est pas comment, c'est et quand, c'est pourquoi, c'est quand est-ce qu'on le fait, et la réponse doit être maintenant.
Et sur tout cela, vous n'attendez rien du G7 à Biarritz à la fin de la semaine. Cécile Duflo,
Vous avez répondu pour moi.
J'ai résumé.
Si on n'attendait rien, on resterait dans notre grotte. On croit au contraire que la mobilisation citoyenne, le fait de dire voilà ce qui est possible de faire et voilà ce qu'on vous demande à vous, dirigeants du monde, peut faire bouger les choses.
Vous
en tout
espérez.
Cas, on ne se résigne pas.
Courriel pour vous sur le site de l'émission Inès nous écrit. Cécile Duflo, est-ce que vous vous sentez plus utile à la tête d'une ONG plutôt que dans un parti politique? Je rappelle que vous avez été secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, secrétaire national des Verts.
Oui, alors moi je fais pas partie de ceux qui ont quitté la politique en étant ou déçus ou résignés. Je continue de penser que l'action politique est utile et qu'elle peut même être décisive, qu'on peut prendre des décisions et que les dirigeants actuels du monde et qu'Emmanuel Macron, s'il le souhaitait, pourrait faire voter une politique fiscale qui lutterait contre les inégalités, pourrait faire en sorte d'améliorer la situation des services publics et surtout pourrait tenir les engagements de l'accord de Paris. Cet Emmanuel Macron-là, celui que nous avons, le président actuel, s'il en prenait la décision, s'il décidait avec sa majorité de prendre cette orientation politique, il en a la possibilité. Il n'y a pas une fatalité. Donc je crois à l'action politique. Mais je crois aussi qu'elle ne suffit pas, elle n'est pas l'essence même de la mobilisation et que l'action politique peut aussi se retrouver dans les mobilisations citoyennes, dans le pouvoir citoyen. C'est le sens de mon engagement au sein d'Oxfam. Ensuite, il y a des parcours individuels. Donc ça répond aussi à mon parcours. Mais en tout cas, je le redis, l'action contre la fatalité, je pense qu'il n'y a rien de mieux, de plus nécessaire aujourd'hui que de ne pas croire que la marche du monde telle qu'elle existe aujourd'hui, ce système qui a grave les inégalités et qui ruine notre planète, est une fatalité. On peut agir.
Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam, l'ONG qui lutte contre les inégalités et la pauvreté, ancienne ministre du Logement, était l'invitée de France Inter dans les studios de France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.